Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui, alors juste avant la mission d'aujourd'hui qui va être avec Angélique Pahl qui est chercheur à l'IRSEM, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone notre partenaire que les auditeurs connaissent bien, Joseph Enrotin, rédacteur en chef de DSI, le magazine DSI Défense et Sécurité Internationale. Alors Joseph, ça fait longtemps qu'on vous a pas eu au téléphone avec le confinement, etc. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu se parler pour ces partenariats périodiques qui sont normalement une fois par mois. Mais je vois que vous n'avez pas chômé pendant ce silence momentané, puisque non seulement vous revenez avec un hors-série numéro 72 sur lequel on va revenir dans une seconde, mais vous avez profité de cette accalmie, ou peut-être que c'était probablement déjà dans les cartons, j'imagine, pour lancer une nouvelle formule de DSI. Alors expliquez-nous peut-être dans un premier temps qu'est-ce que c'est que cette nouvelle formule et qu'est-ce que vous avez essayé de faire en remaniant le journal.
Alors voilà, alors bonjour, la nouvelle formule en fait, c'est issu d'une réflexion qui date, hein. On a entamé les réflexions il y a à peu près un an de cela, et où le but du jeu en fait c'était de répondre à un certain nombre de demandes. On s'est rendu compte qu'en fait, en dépit d'une littérature, et peut-être même à cause en fait, hein, d'une littérature sur les questions stratégiques, les questions de défense qui s'épaississaient, qui connaissaient une prolifération, en fait, dans un certain nombre de cas, d'une part, on avait un problème en fait de retour aux sources, de revenir sur les fondamentaux, et d'autre part, on s'apercevait également qu'il y avait un rôle à jouer en fait en matière d'aiguillonnage, si vous voulez, des débats. Et donc, la traduction concrète dans la réalisation de la nouvelle formule, c'est pas le changement de format au niveau pagination, c'est pas le changement de format plus classique. C'est le fait d'une part de faire intervenir un certain nombre d'universitaires qu'on a choisis. Hein, alors on avait déjà des chroniques, mais cette fois-ci on systématise un peu la démarche. Des gens comme Olivier Zajec, des gens comme Stéphane Taïa, Delphine Deschaux, des gens comme Régis Noël, etc., etc. De manière à faire en sorte, si vous voulez, d'avoir une réflexion qui est un petit peu plus aiguillonnée, un petit peu plus dans l'actualité, mais qui permette également de revenir sur les fondamentaux à coup de source. Hein, il n'y a pas 36 solutions en la matière. Et donc, voilà, on a injecté ces chroniques-là. On est revenu également, on travaille beaucoup plus maintenant avec des tableaux de bord que par le passé, simplement parce que là aussi, il faut des sources, il faut des données. On revient également, on en profite pour revenir sur une question posée par des tweetos, simplement. Hein, donc on essaye de creuser un petit peu l'actualité, de l'éclairer sous un jour de recherche en fait, hein, et en utilisant des ressources académiques. Et ma foi, les premiers tours sont plutôt bons.
Très bien. Alors je laisse tout le monde donc découvrir ce numéro, c'est numéro 147-148 de la nouvelle formule de DSI, où c'est comme d'habitude avec les numéros réguliers, il y a tout un aéropage de réflexions et de thèmes qui sont abordés, mais entre autres il y a des points sur l'armée royale du Maroc, il y a quelque chose sur la flotte marchande chinoise, ou encore une réflexion qui rappellera sans doute le podcast qu'on a fait avec Hervé Pierre sur le général Beaufre et pourquoi lire Beaufre aujourd'hui. Alors, je l'ai dit, il y a aussi en ce moment et ces jours-ci un nouveau numéro, cette fois des hors-séries de DSI qui sort. Alors, dites-nous peut-être à quoi il est consacré ce hors-série de DSI, et puis après il y a un dossier dont je pense qu'on va parler un peu plus précisément.
Tout à fait. Alors en fait, c'était le hors-série qu'on préparait traditionnellement pour le salon Eurosatory, donc salon de l'armement terrestre qui se tient à Paris, à Villepinte plus précisément, tous les deux ans. Mais pour faute de Covid, évidemment, le salon a été annulé. Il devait se tenir en juin. Mais par contre, on a maintenu le hors-série qu'on consacrait traditionnellement à l'armement terrestre et aux opérations terrestres. Et ma foi, grand bien nous en a pris, parce que la matière, évidemment, ne manque pas. Et donc, finalement, si le salon est plutôt le prétexte, on va dire, de la rédaction d'un hors-série sur l'armement terrestre et les opérations terrestres, on a gardé le prétexte, même si le salon ne se déroulait pas.
Ouais, alors il y a tout un éventail, disons, de sujets et de manières d'envisager différemment le combat terrestre. On trouvera notamment un article de Michel Goya sur le combat rapproché ou de Philippe Langlois sur les chars légers. Mais il y a tout un sous-dossier, disons, toute une partie de ce numéro-là qui est consacrée à l'artillerie et aux grandes mutations dans l'artillerie. Donc expliquez-nous peut-être, Joseph, quelle est l'idée de ce dossier sur l'artillerie ? Pourquoi parler de l'artillerie maintenant ? Pourquoi entrer à ce point-là en profondeur ? Et quelles sont, disons, les grandes conclusions de ce dossier ?
Alors, en fait, une partie de notre métier consiste en fait à faire de la prospective et sur base de l'observation, de l'évolution des opérations, de tenter de voir quelles sont les tendances futures en matière d'emploi de la force. Et en l'occurrence, ces six dernières années, on a vu en fait un retour en force de l'artillerie. Alors ce qui est très intéressant, parce que comme les chars en leur temps, vous savez, périodiquement, on dit des chars qu'ils sont appelés à quitter finalement les champs de bataille et à devenir caduques, eh bien il en est un petit peu de même de l'artillerie. Et en réalité, ce qu'on observe ces six dernières années, c'est non seulement un retour en force de l'artillerie, c'est-à-dire qu'on voit très clairement qu'il y a un renouvellement des arsenaux, qu'il y a un renouvellement des capacités, qu'il y a une vraie réflexion capacitaire autour de l'artillerie du futur, d'une part, mais aussi, d'autre part, que le rôle de l'artillerie dans les combats et les opérations militaires est appelé en fait à changer, et change déjà pour un certain nombre d'acteurs. Et donc là où traditionnellement on envisageait l'artillerie finalement comme une arme un peu de deuxième ligne, une arme d'appui, c'est pas nécessairement perçu comme une arme dite de mêlée, c'est-à-dire celle qui va prendre qui va prendre part au combat en première ligne. Donc on la voit plutôt en appui effectivement de l'infanterie, de la cavalerie, etc. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les reconfigurations de l'artillerie permettent aujourd'hui d'envisager l'action de l'artillerie en fait en comme une première ligne. Et le but de ce dossier, c'est de montrer deux facettes, si vous voulez, de leur utilisation, de son utilisation. D'une part, avec de très vieux matériels, parfois, ce qu'ont pu faire les Russes dans l'Est de l'Ukraine, donc des matériels qu'on a connus à l'époque de la guerre froide. Le simple fait de coupler ces matériels-là avec des réseaux de drones, alors parfois très rustiques, très rudimentaires, mais de manière à pouvoir accroître finalement la capacité à détecter rapidement une cible, et ensuite la capacité à transmettre évidemment les informations là où il faut très rapidement, avec de nouvelles manières d'envisager le commandement-contrôle des forces d'artillerie d'une part, et d'autre part d'utiliser de la guerre électronique pour aveugler l'adversaire, permet en fait aux Russes notamment d'envisager l'usage de l'artillerie avant même celui de l'infanterie, avant même celui de la cavalerie. Et donc, infanterie et cavalerie interviennent à ce moment-là plutôt en appui, si vous voulez, de la frappe d'artillerie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu en Ukraine. Donc, un début de ce dossier, c'est d'analyser, de faire une sorte de compilation, de rétexte, de synthèse, finalement, de ce qu'on a pu voir des usages de l'artillerie en Ukraine. Mais de voir aussi que même pour des États qui n'envisagent pas ce type d'usage-là, l'artillerie peut jouer un rôle d'aviation de substitution, au sens où finalement, ce qui va pouvoir être engagé dans des conflits, y compris des conflits contre-irréguliers, c'est certes de l'aviation, c'est certes des forces spéciales, mais c'est aussi de l'artillerie. Et c'est typiquement ce qu'on voit avec la Task Force Wagram, donc les quatre obusiers César qu'on a engagés en en Irak et puis au Levant d'une manière plus courte, hein, mais où très clairement l'engagement au sol, si vous voulez, de la France intervient par l'emploi de l'artillerie. Il n'y a pas que ça, hein, il y a eu des missions de formation, il y a eu des forces spéciales, etc. Mais l'artillerie, si vous voulez, constitue un gros morceau en termes de puissance de feu. Et c'est le cas également, par ailleurs, des Américains. Et donc là, on a un officier américain qui revient sur l'expérience de sa batterie de M777, donc de Bouvier de 155 en Irak. C'est assez intéressant parce que ça remet en cause un certain nombre de choses, et notamment la question logistique, parce que qui dit artillerie dit obus. Ben voilà, comment fait-on pour transporter des obus sur des distances pareilles, c'est-à-dire depuis le Koweït jusqu'à la frontière entre l'Irak et la Syrie. Voilà. Et du coup, ben l'officier nous explique qu'en réalité c'était très compliqué, qu'il fallait parfois 15 jours avant de recevoir effectivement les obus qu'on avait commandés. Ben, ce à quoi s'ajoutent évidemment toutes les contraintes propres au combat et qui rendent les opérations évidemment difficiles. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de mutation, si vous voulez, dans les usages de l'artillerie. En fait, son spectre d'emploi, bon, qui était déjà relativement large, s'accroît, et notamment au plan opératif, mais aussi au plan stratégique.
Très bien. Et ben donc je recommande donc très vivement ce numéro 72 pour tout savoir de l'artillerie, mais aussi plus généralement des mutations des engagements terrestres. Et je renvoie par ailleurs à la nouvelle formule des numéros habituels de DSI, apparue notamment dans les numéros 147 et 148. Merci beaucoup Joseph, bonnes vacances, et puis on se retrouve à la rentrée.
Merci à vous.
Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui, pour parler de géopolitique et de géostratégie des ressources énergétiques, j'ai le plaisir de recevoir Angélique Pahl, chercheur énergie et matières premières à l'IRSEM. Donc bonjour Angélique, bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour.
Alors, l'approvisionnement et la sécurité énergétique, c'est évidemment des sujets extrêmement importants, voire même complètement centraux, mais comme souvent pour ce qui concerne des infrastructures et puis même l'architecture d'infrastructures comme ça, c'est des problématiques géopolitiques et stratégiques qui sont très structurantes, mais qui se déroulent relativement à bas bruit et qui attirent souvent moins l'attention que des guerres ou des conflits ouverts, ce qui fait d'ailleurs que certains parfois tendent à en faire une sorte de principe explicatif caché de toute la géostratégie mondiale depuis la guerre d'Irak de 2003 jusqu'au conflit du Moyen-Orient contemporain par les trajets de pipelines et de gazoducs. Donc il y a plein de choses très importantes à dire dessus et plein de points d'entrée aussi différents possibles, parce que il y a à la fois des considérations de géopolitique et d'autres de sécurité et de sécurité énergétique sur lesquelles on reviendra. Et j'aimerais peut-être commencer par un point de vue un peu égocentré, bon, mais qui nous permettra d'élargir ensuite. Et donc, vous demandez quelle est la situation énergétique de la France, et puis bon, de l'Europe au-delà, puisqu'on le verra, mais les pays de l'Union européenne sont interdépendants. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que l'Europe et la France sont autosuffisantes? Et dans quelle mesure est-ce qu'elles dépendent de l'extérieur et de qui?
Alors, sur les problématiques énergétiques, tout le monde est un peu dépendant en ce qui concerne la France et l'Union européenne. La France importe l'immense majorité de son pétrole, de son gaz et des combustibles qu'elle utilise pour sa production nucléaire, qui représente la majeure partie de sa production d'électricité. Elle produit sur site un certain nombre de ces énergies renouvelables, mais qui sont elles aussi dépendantes d'autres sources d'approvisionnement, qui peuvent être par exemple des terres rares, des matériaux particuliers comme le lithium, le cobalt, etc. Donc en fait, si on parle d'indépendance au sens d'autonomie, ni la France ni l'Union européenne ne sont indépendantes. Elles dépendent nécessairement d'approvisionnement extérieur. La question c'est, est-ce que ça en fait pour autant une faiblesse stratégique particulière, et est-ce qu'il est souhaitable d'atteindre finalement une autonomie européenne? Là, j'aurais tendance à dire que c'est impossible, puisque quel que soit le type d'énergie et quel que soit le type de source qu'on observe, en fait, on est toujours plus ou moins dépendant d'un approvisionnement extérieur. La question, c'est comment est-ce qu'on équilibre finalement ces vulnérabilités, ces dépendances à des producteurs extérieurs, pour construire un mix énergétique qui assure la sécurité d'approvisionnement.
D'accord. Bah alors, si on reprend cette idée de mix énergétique, quelles en sont donc les grandes évolutions ? Parce qu'on sait, à une grande époque, où à la fois le souci et en même temps la peur, c'était le pétrole du Moyen-Orient, c'est-à-dire à la fois le souci de garder un approvisionnement constant, et en même temps la peur de la dépendance éventuellement aux fluctuations de prix des pays producteurs de pétrole qui pouvaient gérer, disons, la production et donc les prix. Donc, est-ce qu'on est toujours aussi dépendant au pétrole ? Et sinon, dans quelle mesure est-ce qu'on a rééquilibré en France et en Europe ce mix énergétique dont vous parliez ?
L'Europe, elle utilise, son mix énergétique est constitué à peu près de 45% de pétrole encore aujourd'hui. Donc c'est quand même une part très importante. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ce qu'elle en fait, eh bien en fait on s'aperçoit que ce pétrole, il est dans une immense majorité utilisé pour soit un peu d'industrie chimique, soit du transport, et notamment du transport aérien ou de la route. Donc en fait, l'industrie européenne, dans une certaine mesure, elle n'est pas vraiment dépendante du pétrole. Ce qui va être, là où on va être vraiment dépendant du pétrole, c'est sur tout ce qui est déplacement, en avion ou en voiture. Donc il y a une dépendance stratégique au pétrole qui est forte, mais qui n'est pas nécessairement une dépendance industrielle, c'est une dépendance de déplacement. Ce qui veut dire que, par exemple, quand on fait de la recherche sur les voitures électriques, si on promeut le train, etc., en fait, on a éventuellement des alternatives à cette dépendance au pétrole qui existent et qui sont en cours de développement. Ça ouvre évidemment d'autres dépendances au gaz qui produit une large partie de l'électricité, éventuellement au nucléaire, si on choisit de mettre du nucléaire dans le mix. Mais la dépendance au pétrole pour de la production ou de l'électricité, finalement, en Europe, elle est relativement faible.
D'accord, bah alors parlons-en, puisque le nucléaire, on reviendra dessus, parce que c'est vraiment un choix en plus, enfin la France est assez particulière en Europe et dans le monde par rapport à ça, mais une des grandes problématiques, une des grandes sources d'énergie, vous l'avez donc dit, c'est le gaz, et le gaz, alors d'où est-ce qu'il vient, le gaz européen, et dans quelle mesure est-ce qu'il sert, enfin quelle est sa place, disons, dans la production d'énergie, et notamment d'électricité ?
L'Union européenne, elle utilise à peu près, dans son mix énergétique, il y a 20% de gaz. C'est une ressource qui est un peu paradoxale parce que, d'un côté, elle est en croissance, si on la prend de façon assez générale sur les dernières années, notamment parce que c'est une ressource qui est pas mal utilisée pour contrebalancer la variabilité de la production renouvelable. Quand on fait du solaire ou de l'éolien, souvent, on a besoin de centrales de backup qu'on puisse démarrer si, en fait, il n'y a pas de soleil ou il n'y a pas de vent. Donc le gaz, il est pas mal utilisé et vendu comme une énergie qui finalement viendrait aider, dans une certaine mesure, la transition énergétique. Et en même temps, c'est une énergie carbonée et qui donc émet des gaz à effet de serre, etc., ce qui va à l'encontre d'un certain nombre de politiques menées par l'Union européenne et par les États membres pour réduire leur impact carbone notamment. Donc, le gaz, il a un peu cette espèce de... Il est moins diabolisé que le pétrole, mais il a quand même une espèce d'ambiguïté dans son utilisation. D'où est-ce qu'il vient ? Et là, ça devient vraiment intéressant. Le gaz européen, on a un peu ce fantasme qui vient en très grande majorité de la Russie, et que la Russie l'utilise un peu comme une arme énergétique, dont, par exemple, l'entreprise Gazprom serait le bras armé de la Russie pour une influence européenne. Depuis quelques décennies... une petite précision, tous les États de l'Union européenne ne sont pas dépendants de la même façon de la Russie. C'est-à-dire que, par exemple, un pays comme la France a des alternatives avec le gaz venant d'Algérie, par exemple, ou éventuellement de mer du Nord, qui permet d'équilibrer, en fait, cette dépendance à la Russie. Par contre, si on va chez certains États de l'Europe de l'Est, la dépendance est beaucoup plus forte. Donc là, c'est pas seulement le fournisseur, c'est aussi les infrastructures. À quel point est-ce qu'on peut accéder à d'autres sources d'approvisionnement ? Et depuis quelques années, quelques dizaines d'années, on a une révolution dans le monde du gaz qui a mondialisé, dans une certaine mesure, le marché. C'est le gaz naturel liquéfié. En fait, on prend le gaz, on le compresse, ça le liquéfie, on le met sur des bateaux et on peut, le distribuer un peu partout dans le monde.
Par opposition donc au gazoduc.
Exactement.
C'est-à-dire, avant, il fallait vraiment un tuyau qui aille du point de production au point d'arrivée. Et maintenant, avec la liquéfaction du gaz, on peut, être plus créatif sur les flux, quoi.
Exactement. Donc, si on regarde la façade maritime de l'Europe, on voit apparaître un certain nombre d'infrastructures qui permettent de regazéifier le gaz et qui permettent, par exemple, à des États comme la Pologne, qui était extrêmement dépendant de la Russie, de se penser comme indépendant vis-à-vis de la Russie à un horizon assez proche d'ici 2025-2030. En allant s'approvisionner, par exemple, alors avec le gaz américain, du gaz qatari ou d'autres types de producteurs.
Ouais, mais alors parlons-en et arrêtons-nous là-dessus, parce qu'effectivement, là, on commence à entrer vraiment dans le dur de la géostratégie de ces ressources énergétiques. On peut le prendre par plein de bouts, mais il y a un bout qui défraye régulièrement la chronique, c'est le bout du gazoduc Nord Stream 2, donc venant de Russie, vers l'Europe. Donc Nord Stream 2, ça implique qu'il y avait déjà un Nord Stream 1, qui est déjà un gazoduc entre la Russie et l'Europe, et c'est l'idée qu'il y en aurait un deuxième à construire. Alors, je sais même pas par où le prendre, mais dites-nous peut-être ce qui pose problème et pourquoi est-ce que c'est un objet de débat, ce gazoduc, parce qu'en fait ça pose la question de qu'est-ce qu'il y a derrière en termes d'influence, de stratégie et de dépendance. Mais quel est l'objet du débat avec ce gazoduc Nord Stream ?
Il y a plusieurs choses. En fait, il est extrêmement riche, le débat autour de ce gazoduc. On va partir peut-être des différents points de vue en fait, des acteurs. Ça permet de voir un peu les différents enjeux. Pour les Russes, l'objectif de ce gazoduc, c'est de compléter un dispositif de contournement de l'Ukraine. En fait, l'Ukraine était, jusqu'à il y a quelques années, le principal point de passage du gaz partant de Russie à destination de l'Europe. Et à la suite d'un certain nombre de différends dans les années 2000 avec l'Ukraine, qui ont amené à certaines coupures de gaz notamment, la Russie a adopté une stratégie de contournement. Donc elle a fait passer les gazoducs, soit
par le Nord... Oui, parce qu'il faut répéter que ça commence pas avec la Crimée et le Donbass. L'influence de la Russie dans les affaires internes ukrainiennes est très ancienne. Mais en tout cas, pendant les années 2000, ça a été un moyen de pression de l'Ukraine dans cette relation diplomatique et de rivalité avec la Russie, que d'être capable de fermer le robinet du gazoduc russe.
En fait, c'est pas l'Ukraine qui ferme le robinet, c'est les Russes qui ferment, mais ça permet à l'Ukraine d'obliger l'Union européenne à s'impliquer dans sa relation avec la Russie. Alors que s'il n'y a plus la variable énergétique, en fait, si l'Union européenne est plus dépendante du transit ukrainien, en fait, elle pourrait stratégiquement se désintéresser un peu de la question. Et avoir moins d'implications dans les affaires ukrainiennes vis-à-vis de la Russie. Donc là, les Russes, eux, disons, ils se sentent un peu menacés dans leur accès au marché européen, et donc ils ont développé des stratégies pour faire le tour. Donc il y a eu Yamal, un premier gazoduc qui passait notamment par la Biélorussie et la Pologne. Il y a eu tout un tas de d'initiatives pour passer par le sud, South Stream, Turkish Stream, etc. Et puis le Nord Stream, eh bien, c'est le contournement par le nord. Ce gazoduc, il a un intérêt principal, c'est qu'il n'y a pas de pays de transit. Il part de Russie, il passe par la mer Baltique et il se branche directement en Allemagne. Et donc ça permet à la Russie en fait, de traiter directement avec les Allemands, où là, pour le coup, les relations sont plutôt bonnes, notamment d'un point de vue économique. Et ça permet finalement, d'un point de vue russe, de en fait, pacifier sa distribution de gaz au marché européen. Donc ça, c'est le point de vue russe, contournement ukrainien. Pour les Ukrainiens, évidemment, c'est extrêmement problématique. D'abord parce que le gaz, c'est des revenus. On paye quand on fait passer un gazoduc sur un territoire national. Et puis, bon, ça leur fait perdre, en fait, une capacité d'influence et d'attraction de l'Europe dans leurs affaires avec la Russie. Côté Union européenne, c'est très mitigé. D'un côté, il y a les Allemands qui, eux, ont assez intérêt, finalement, à se retrouver comme l'acteur négociateur majoritaire en Union européenne pour discuter avec la Russie. L'argument
oui, parce
derrière,
que le, ouais. si le tuyau passe par l'Allemagne, ça veut dire que l'Allemagne est aussi le distributeur dans toute
Exactement.
L'Europe, donc ça leur donne une vraie importance stratégique dans toute l'infrastructure énergétique européenne. Quoi.
Exactement. Donc ça leur permet notamment d'irriguer toute une partie de l'Union européenne, Europe de l'Est, etc. Donc ça leur donne un poids très important à l'intérieur de l'Europe. En face, on a les Baltes. Qui disent, alors ils ne le disent pas trop fort parce qu'ils n'ont quand même pas une capacité d'influence si forte que ça dans le jeu géopolitique énergétique, mais qui disent on a un gazoduc qui passe en face de chez nous, mais il ne nous dessert pas, donc finalement on est un peu les perdants du jeu. Donc il y a les Baltes.
Oui, parce que c'est un autoroute, il n'y a pas de sortie.
Il n'y a pas de sortie.
Okay.
Ça arrive en Allemagne, puis après l'Allemagne redistribue. Donc eux, ils disent on est un peu perdants finalement. On le voit passer sous nos fenêtres, mais en fait on n'en bénéficie pas. Il y a la Pologne, qui avait une stratégie complètement différente avec beaucoup de gaz naturel liquéfié, qui a construit de très grandes infrastructures de stockage et qui se voyait un peu comme l'alternative finalement en important du gaz d'Allemagne, du Qatar, etc. pour donner une alternative au gaz russe, notamment à l'est de l'Union européenne. Et puis, il y a tous les pays du sud de l'Europe qui disent, attendez, le South Stream, l'Union européenne a dit non, parce que trop d'influence russe dans la région, et par contre, on arrive avec un Nord Stream 2, où là, pour le coup, quand c'est l'Allemagne qui va, ça passe.
Le South Stream, c'était un gazoduc qui aurait fait le tour par le sud, c'est
exactement. Okay. Et qui serait arrivé, notamment, par exemple, en Bulgarie ou en Roumanie. Donc là-dessus, les pays de l'Union européenne se déchirent un peu. Il y a ceux qui ont des intérêts forts, finalement, pour la construction du gazoduc, et ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'il soit construit.
Ouais, mais si on... Bon, ça pose la question aussi, du coup, du mix énergétique. C'est-à-dire, on sait que bon, les relations entre tous les pays européens et la Russie ne sont pas exactement pacifiées sur le temps long, quoi, depuis au moins une dizaine d'années. Enfin, je veux dire, on voit bien le problème qu'il y a de construire une immense voie d'approvisionnement par le gaz russe. S'il y a du gaz russe qui arrive à cette quantité-là, et on peut supposer avec un prix qui s'en ressent, on peut supposer que ça donne aussi un certain pouvoir à la Russie sur l'Union européenne, puisque ça leur permettrait de éventuellement fermer un peu le robinet ou monter les prix. C'est-à-dire, ça leur donnerait un levier d'action diplomatique par l'énergie supplémentaire.
Alors ça, c'est une des possibilités. Cela dit, si on regarde ce qui se passe dans les faits, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de vider les gazoducs ukrainiens. Et donc, en fait, plus qu'une opportunité pour vendre plus de gaz, pour eux, c'est plutôt une opportunité pour sécuriser leur vente de gaz, simplement en arrêtant de faire le passage du gaz par les infrastructures ukrainiennes. Et donc, les Ukrainiens, ils ont renégocié l'hiver dernier, et ça a été une négociation assez dure, leur contrat avec la Russie pour le passage du gaz, et l'Union européenne a été obligée de monter au créneau, ne serait-ce que pour qu'en fait, la pression du gaz qui est soit dans les tuyaux, soit suffisante pour les faire fonctionner. Donc on en est là, finalement, d'un pays de transit absolument majeur pour la Russie. L'Ukraine est en train de passer complètement comme une espèce de variable d'ajustement, mais très, très mineure.
Ouais, du coup, où est-ce qu'on en est de cette construction de Nord Stream ? Est-ce que, de Nord Stream 2, donc, est-ce qu'on peut attendre qu'il soit mis en service bientôt? Et est-ce que ça va influencer le... C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des pays qui comptent dessus pour changer leur mix énergétique? Est-ce que déjà, comment dire, est-ce que le gaz est sur une pente ascendante en Europe? Et est-ce que les pays européens se fient à ça?
Oui et non. Alors, le gazoduc, il est quasiment construit. Il reste quelques centaines de kilomètres, mais la majorité du gazoduc est construite. Ça a posé un certain nombre de problèmes. Ils ont du retard. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils vont pouvoir le mettre en service, parce qu'en fait, là-dessus est entré un nouvel acteur dans le jeu, qui est l'acteur américain, qui a notamment imposé des sanctions sur les entreprises qui participeraient à la construction du gazoduc. Alors ça, c'est un peu le serpent de mer. Il y a eu tout un tas d'allées et venues assez complexes entre les différentes instances américaines, la Commission européenne, qui s'est retrouvée obligée de défendre le gazoduc, alors même qu'initialement, ce n'était pas nécessairement son intention première. Et une montée au créneau des Américains qui ont dit, finalement, ça va renforcer l'influence russe sur l'Union européenne, on est contre, pour le dire assez simplement. Donc, il y a eu tout un tas de retards, finalement, dans la mise en place de ce gazoduc, mais on part du principe aujourd'hui que, normalement, il devrait entrer en service. Donc, les États comptent dessus dans une certaine mesure. De toute façon, comme on a la porte de sortie ukrainienne, si vraiment il y a besoin de faire passer du gaz, c'est pas non plus complètement dirimant comme problème. Après, il n'y a pas d'État, à ma connaissance, qui se soit dit « on va changer notre politique énergétique avec la construction de ce gazoduc ». C'est plus une relocalisation des flux d'énergie qu'un changement réel de dynamique pour la composition du mix.
Très bien. Alors, juste pour ceux que le sujet intéresse, on peut signaler que vous avez publié une étude de l'IRSEM sur la question avec Céline Maranger et Samir Ramdani, c'est la numéro 62 qui date de décembre 2018, mais qui pose très efficacement les termes du problème. Justement, vous avez commencé à faire la transition, vous avez commencé à introduire un des nouveaux acteurs dans tout ça, qui sont les États-Unis, et ça peut peut-être nous permettre de parler d'une révolution à laquelle vous avez déjà fait allusion, mais dont il faut maintenant parler plus concrètement, à savoir une grande révolution dans la carte énergétique mondiale, disons depuis quoi, 15 ans, puisque il y a donc l'essor du gaz de schiste en Amérique qui a fait passer les États-Unis d'un pays très importateur à un pays exportateur d'hydrocarbures. Donc peut-être rappelez-nous déjà le principe et peut-être ensuite Comment est-ce que ça a replacé, en quelque sorte, modifié la position des États-Unis sur la carte des hydrocarbures à l'échelle mondiale?
Alors, le gaz de schiste, c'est une révolution majeure, gaz et pétrole de schiste. L'idée technique, très simplement, c'est que le gaz conventionnel et le pétrole conventionnel, on le puise dans des poches qui sont des espèces de trous dans la roche dans lesquels on va forer et on récupère le gaz. Là, avec le gaz de schiste, on détecte des roches un peu poreuses qui ont une multitude de petits trous et on fait ce qu'on appelle du fracking, c'est-à-dire on envoie à grande puissance, en général de l'eau avec des additifs, qui explosent la roche et ça fait sortir le gaz de ces petites anfractuosités qui existent dans la roche souterraine. Donc ça a fait passer effectivement les États-Unis d'un pays très consommateur à quasiment le numéro 1 du pétrole et du gaz dans le monde. Selon les années, ils sont dans le top 3.
Parce qu'ils peuvent produire à la fois du pétrole et du gaz.
Oui, les deux. Pas forcément venant de schiste, le pétrole, il y a des questions de sable bitumineux aussi. Simplement, c'est ce qu'on appelle les hydrocarbures non conventionnels, hein, c'est-à-dire ceux qu'on ne puise pas dans ces fameuses poches qu'on trouve dans la roche et qui sont les façons classiques d'extraire des hydrocarbures.
Donc il n'y a plus besoin de faire de guerre en Irak à partir de maintenant.
Ben, c'est un peu la question. C'est ce qu'on a appelé, c'est l'un des facteurs de ce qu'on a appelé la bascule stratégique sous le président Obama, si ma mémoire est bonne, qui a finalement repositionner une partie des intérêts américains du Proche et Moyen-Orient vers notamment la Chine et la façade pacifique. Et derrière, alors évidemment, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi des intérêts énergétiques. Les États-Unis, ils se sont retrouvés dans une situation où, avec en plus le développement du gaz naturel liquéfié, ils sont en position d'exporter. Et évidemment, ils regardent d'un œil intéressé le marché européen, à la fois parce que c'est possible en termes économiques, même si le gaz américain est plus cher que le gaz russe, mais aussi parce que c'est une pierre dans le jardin des Russes et ça permet de faire baisser l'influence dans la région. Par exemple, les Américains ont mis un point d'honneur à exporter notamment vers le terminal de regazéification des pays baltes, qui ont utilisé la construction de ce terminal pour renégocier leur prix avec Gazprom, donc l'entreprise russe, et faire baisser la facture de gaz que leur faisait la Russie, qui était en fait en position quasiment monopolistique sur le marché gazier côté pays baltes. Donc évidemment, les Américains utilisent cette carte à la fois d'un point de vue économique, mais aussi pour venir un peu chercher les Russes sur leur terrain de jeu héréditaire.
Ouais, mais alors du coup, on voit bien que l'énergie, enfin, je veux dire, juste en voyant les acteurs, on voit bien que l'énergie n'est pas que de l'énergie, quoi. C'est-à-dire, il y a surtout si on replace ça dans le contexte économique de la Russie actuelle, qui est ce qu'il est, qui est pas forcément extrêmement brillant à tous les niveaux. Enfin, on sent que, par exemple, là, ce que vous décrivez, c'est-à-dire faire jouer les prix à la baisse et diminuer la rente d'hydrocarbures de la Russie, on sent que c'est pas qu'une affaire d'argent pour les États-Unis, c'est un enjeu, un levier stratégique plus large, quoi.
Oui, d'autant plus que la Russie, elle est extrêmement dépendante de ses exportations d'hydrocarbures dans, son produit national brut et puis les revenus qu'elle a pour l'État. Si on regarde la façon dont est structuré un peu le paysage énergétique russe, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle utilise Gazprom quasiment comme un acteur de sécurité sociale. C'est-à-dire que Gazprom ne fait pas ou très peu de bénéfices sur le marché russe. L'idée, c'est que l'énergie pour les Russes soit finalement peu chère et tous les bénéfices, toutes les marges sont faites à l'extérieur, à l'exportation. Alors, ces bénéfices, ils sont nécessaires pour l'entreprise parce qu'il faut développer de nouveaux champs. C'est dans des zones qui sont parfois difficiles d'accès, des zones où le sol est gelé en permanence toute l'année. Donc, il faut des nouvelles technologies de forage, etc. Il faut construire de nouvelles infrastructures. Donc, en fait, Gazprom a besoin de cet argent pour développer son activité. Et donc, il se retrouve assez dépendant, finalement, du marché européen. Alors, il y a une tentative d'ouverture qui a fonctionné maintenant avec la Chine pour exporter, c'est ce qu'on appelle les gazoducs Power of Siberia, pour exporter du gaz vers la Chine, mais ce sont des champs de gaz différents. Donc les champs gaziers qui sont proches de l'Union européenne et que Gazprom utilise pour son exportation vers le marché européen, il y a finalement assez peu d'autres alternatives pour l'exportation et donc pour les revenus. I got the power.
Parlons peut-être maintenant des relations entre les pays producteurs. Parce qu'en fait, on sait que les pays producteurs d'hydrocarbures, historiquement, dans la deuxième moitié du XXe siècle, bah, ils s'entendaient. Enfin, c'est le propos de l'OPEP, enfin, de l'organisation des producteurs, enfin, des pays exportateurs de pétrole. C'est-à-dire de s'entendre pour contrôler les prix et pour garder les prix assez hauts et pour assurer la rente de tout le monde. C'est comme ça que ça a joué, disons, pendant toute la guerre froide. Enfin, en tout cas à partir de 73. Du coup, quelles sont les relations entre les grands producteurs aujourd'hui? Est-ce qu'ils s'entendent dans une certaine mesure? Je pose la question parce qu'on a vu, par exemple, il y a quelques mois, que Donald Trump a poussé des coups de gueule envers la Russie et les pays du Golfe en disant que les deux s'entendaient un peu trop et qu'ils faisaient un peu trop baisser les prix et que du coup, ça mettait en péril l'industrie pétrolière américaine. C'est-à-dire, est-ce qu'on est encore dans un relatif contexte d'entente ou est-ce que c'est trop, y a trop d'acteurs maintenant et que tout le monde essaye de se tirer dessus un peu dans tous les sens en cherchant chacun son intérêt propre?
Côté gazier, l'OPEP du gaz, c'est un peu le serpent de mer. Elle n'a jamais vraiment vu le jour et les acteurs n'ont jamais vraiment réussi à s'entendre, en partie parce que les marchés étant régionaux, jusqu'à l'avènement du gaz naturel liquéfié, en fait, chacun était un peu maître chez lui. Chacun avait une aire d'influence et donc ça nécessitait pas nécessairement une entente comme celle que pouvait avoir l'OPEP. Le gaz naturel liquéfié, évidemment, est venu un peu rebattre les cartes. Côté OPEP, on est plutôt sur, vous l'avez dit, hein, sur une dynamique un peu de dissension. Il y a eu quand même un certain nombre de crises qui sont venues mettre à mal à la fois la consommation, les prix du pétrole, la crise de 2008, on a eu la question iranienne, la question du coronavirus aujourd'hui. Donc l'entente sur le pétrole, elle est quand même relativement chahutée auprès des pays producteurs. Moi, ce qui m'intéresse, je ne regarde pas tellement les prix, en fait, la variation du prix du pétrole. L'indicateur que je regarde de façon assez suivie, c'est ce qu'on appelle le retour sur investissement énergétique. En gros, c'est un indicateur plus technique. C'est combien de barils de pétrole il vous faut pour en extraire combien. Dans les années 20, quand on a commencé l'exploration, avec un baril de pétrole, on en récupérait 100. Aujourd'hui, on est sur des ratios qui sont, alors ça dépend évidemment des études et de ce que vous mettez dans l'indicateur, mais on est sur 1 à 14, voire dans certains cas, et notamment ces nouveaux gaz, ces nouvelles énergies non conventionnelles, on peut parfois arriver sur du rapport de 1 à 4. Et donc, ce que je trouve intéressant finalement, si on se projette en fait dans l'accès au pétrole et puis la raréfaction de la ressource, etc., c'est moins le prix qui a des composantes extrêmement géopolitiques, que le fondamental, c'est-à-dire finalement combien d'énergie on doit investir pour en récupérer combien. Et là, on voit qu'on est finalement sur une pente assez descendante, ce qui pose des problèmes, notamment si on discute avec les grandes majors pétrolières, qui disent que les services d'exploration ont aujourd'hui un peu du mal à se financer, parce que c'est de plus en plus cher de faire de l'exploration, de forer des puits, etc. Et donc, finalement, plus que l'entente entre les différents grands producteurs, qui là, pour le coup, est très dépendante de facteurs qui peuvent être externes à la question énergétique, je trouve que c'est intéressant d'aller se pencher sur les fondamentaux techniques, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est possible de faire, finalement.
Oui, c'est qu'il y a une rentabilité descendante de l'exploitation. Exactement. Des hydrocarbures. Bon, et enfin, il faut peut-être dire simplement un mot d'un pays qui n'est pas un producteur, enfin si qui est un producteur, mais qui est surtout un très gros consommateur. Donc on a parlé de la Russie, on a parlé des États-Unis, il faut évidemment parler un peu de la Chine. Premier consommateur d'énergie fossile au monde, qui en produit, qui produit de l'énergie, mais assez peu d'énergie fossile. Donc d'où est-ce qu'ils tirent, de quoi satisfaire leurs besoins énergétiques? Alors vous avez commencé à parler tout à l'heure des gazoducs qui viennent de la Russie, mais bon, quelle est la proportion? On sait qu'ils ont des liens avec l'Iran aussi. Et où est-ce qu'ils investissent? C'est-à-dire, puisque à la fois la consommation d'énergie pour l'industrie et pour les ménages chinois va pas baisser, bien au contraire, elle va continuer à augmenter vertigineusement. Comment est-ce que la Chine se place dans cette géostratégie des ressources énergétiques à l'échelle mondiale?
Alors là, c'est l'un des acteurs qui vient complètement révolutionner le jeu énergétique. La Chine, ce qui est intéressant de regarder, c'est aussi les raisons en fait internes de son intérêt pour certains types d'énergie. Si on regarde un peu comment se structure l'appareil de production chinois, on est passé en fait d'une industrie très primaire, fondée sur le charbon, à une industrie qui se tertiarise et avec la montée d'une classe moyenne chinoise, avec une consommation résidentielle qui explose et qui devrait être par tête supérieure à la consommation européenne par foyer d'ici une dizaine d'années, voire moins. Donc la Chine, non seulement elle change le type d'énergie qu'elle utilise, mais en plus, sa facture énergétique augmente. Et avec ça, elle voit arriver chez ses classes moyennes une certaine forme de conscience environnementale qui consiste à dire que, la croissance et la consommation, mais il faut que le niveau de vie demeure, et notamment dans certaines villes très polluées comme Pékin, on a, de la part de cette classe moyenne, une certaine conscience environnementale qui fait pression sur le pouvoir d'un point de vue politique. Donc la Chine, elle se retrouve dans cette espèce de paradoxe qui est un paradoxe, en fait, à l'échelle du pays, elle incarne le paradoxe qu'on a à l'échelle mondiale, qui est qu'elle est à la fois le premier producteur d'énergie renouvelable, et en même temps, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre. Et en fait, sa production d'énergie renouvelable n'arrive pas à rattraper sa consommation. Et donc, elle lutte un peu entre ces deux pôles, pour essayer à la fois de produire suffisamment d'énergie pour alimenter sa croissance et en même temps de ne pas complètement détruire son environnement, notamment dans les villes, en ayant une énergie qui soit particulièrement polluante. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va chercher à l'extérieur les moyens de produire et les moyens aussi de structurer son industrie pour ensuite apporter sur le territoire chinois un certain nombre de solutions qui peuvent être par exemple des solutions de production d'énergie renouvelable ou des solutions de transport d'électricité sur de très longues distances où les Chinois sont en train de devenir particulièrement bons, disons, dans le secteur. Donc elle va chercher, et c'est l'un des grands objectifs finalement du fameux projet des routes de la soie, qui a une grande capacité d'investissement, notamment dans le secteur des matériaux qui sont propices à la production d'énergie. Là, elle fait plusieurs choses. Sur les matières premières, elle va plutôt chercher en Afrique, un peu en Amérique latine. Et puis, sur la question de la construction technologique, soit elle construit des choses, notamment en Asie du Sud-Est, soit elle investit dans des producteurs européens. Typiquement, la Chine s'est beaucoup intéressée ces derniers temps à la production d'électricité et au transport d'électricité en Europe, parce que l'Europe est une espèce d'équivalent. L'Europe a cherché à intégrer en fait son réseau de transport d'électricité. La Chine se dit qu'elle ferait bien la même chose, et donc elle vient regarder un peu ce qui se passe en Europe, et elle rachète des gestionnaires de réseaux d'électricité. À tel point que ça a fini par inquiéter le Parlement européen, parce que ce sont des infrastructures critiques en fait pour la production nationale et puis simplement pour le mode de vie européen. Si demain on appuie sur le bouton off sur l'électricité, c'est un blackout et ça a des conséquences extrêmement graves à la fois sur la survie de l'État, sur la production, etc. Donc en fait, la Chine, elle a une espèce de stratégie un peu multiple, où selon les espaces, elle va aller chercher soit des ressources naturelles, soit des compétences de gestion, soit une capacité à tester et à produire un certain nombre d'infrastructures qui peuvent être des infrastructures d'alimentation hospitalière, de la gestion de déchets, etc.
Mais même en termes, puisqu'elle consomme toujours énormément d'énergie fossile, elle est pas dépendante d'un ou de plusieurs fournisseurs. Enfin, c'est-à-dire elle a réussi à équilibrer ses fournisseurs.
Elle a une vision relativement équilibrée, ouais, du marché mondial. En fait, elle va chercher tous azimuts. Donc la stratégie est assez simple. Tout ce qu'il est possible de faire, en général.
C'est-à-dire Iran, Venezuela, Russie.
Iran, ouais, exactement. Les relations sont plus ou moins bonnes, notamment par exemple sur la question des gazoducs russes. Ils ont mis longtemps à s'entendre. Qui payait le gazoduc, par où il passait exactement, quelle était la nationalité des équipes qui allaient le construire et la maintenance. Donc c'est pas forcément toujours simple. Ils y vont pas toujours de façon très fluide. Mais en gros, tout ce qui produit de l'énergie aujourd'hui intéresse la Chine.
Alors maintenant, parlons peut-être de l'acteur auquel vous venez de faire référence, c'est-à-dire l'Union européenne, qui, alors vous l'avez dit, ça fait longtemps que l'Union européenne a essayé d'intégrer sa production d'électricité. C'est-à-dire, il y a une sorte de dialectique, enfin de tension au sein de l'Union européenne entre le fait que l'énergie fait partie depuis très longtemps de l'identité européenne. Enfin, c'est un des premiers éléments de la construction européenne, c'est la CECA, donc la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 51, donc c'est au cœur de l'identité européenne. Et en même temps, on a bien vu tout à l'heure, quand on parlait de Nord Stream, qu'il y a des différences. Tous les pays n'ont pas les mêmes positions énergétiques, enfin, ne serait-ce qu'entre la France et l'Allemagne. Il y a un pays qui abandonne complètement le nucléaire et l'autre qui est toujours, en tout cas en grande partie, dessus. Donc, comment dire, comment ça se négocie et comment est-ce que c'est vraiment intégré et ça coopère vraiment à l'échelle de l'Union entre des pays qui sont malgré tout souverains et ont malgré tout aussi des options politiques différentes?
C'est le grand paradoxe de la politique européenne de l'énergie, c'est que si on regarde en fait les fondamentaux, le traité de Lisbonne, eh bien à la fois on dit on va faire une politique énergétique commune.
Le traité de Lisbonne, c'est 2009, c'est quand même assez récent par rapport aux premiers jalons qui sont posés des années 50, quoi.
Mais en fait, ces premiers jalons, en fait, le traité de Lisbonne, c'est finalement le premier vrai fondement législatif pour une politique énergétique commune. Auparavant, on passait par des proxys. Soit c'était la construction du marché commun, soit c'était la politique environnementale, mais l'énergie, c'était chasse gardée des États. Donc là, c'est devenu une compétence partagée. Mais d'un côté, on dit on va faire une politique énergétique commune, et en même temps, chaque État garde sa souveraineté. Et donc, évidemment, ça mène à des petits heurts, notamment, par exemple, des trucs techniques pas forcément très connus du grand public, mais lorsque l'Allemagne décide de sortir du nucléaire, bon, bah, toutes ces centrales nucléaires, elles sont situées au sud du pays, là où est située la production industrielle. Elles le remplacent notamment par... Elles cherchent à le remplacer par du renouvelable, de l'éolien, mer du Nord, au nord du pays. Et là... on se rend compte qu'en fait, il manque les lignes électriques pour acheminer la production du nord au sud. Alors, comme c'est intégré et que la plaque électrique européenne est interconnectée, ça passe par chez les voisins, notamment les Polonais, les Tchèques. Sauf que les réseaux polonais et tchèques, ils ne sont pas conçus pour récupérer autant, finalement, d'électricité.
Les éoliennes balancent de l'électricité en Pologne et en République tchèque, qui la rebalancent aux usines du sud.
Exactement, ça fait le tour, en fait.
Okay.
Et donc là, évidemment, bon, bah, ça a posé des problèmes de dimensionnement de réseau. Donc les Polonais et les Tchèques ont râlé. Et donc on s'est retrouvé avec des dissensions entre ces différents pays, où finalement, on a fini par mettre ce qu'on appelle des transformateurs de phase, si ma mémoire est bonne, qui en fait sont des espèces de postes frontières sur les lignes allemandes pour que l'énergie allemande reste en Allemagne et que l'Allemagne construise à vitesse grand V des lignes électriques du nord au sud pour acheminer sa production. Et donc finalement, le fait d'avoir pris cette décision de façon un peu isolée, sans concertation avec les partenaires européens, en fait, ça a posé des questions techniques assez immenses sur le transport de l'électricité, par où ça passe, qui paye, etc. Donc ça, c'est des questions techniques, mais en fait, l'interconnexion de l'intégralité du réseau électrique européen, qui est quasiment achevée aujourd'hui, ça pose des questions de solidarité qui sont gérées plus à des échelons techniques qu'à des échelons politiques. Et l'interconnexion technique amène à l'échelon politique des questions de cohérence et de coopération qui ne se posaient pas nécessairement avant. Par exemple, blackout de 2006, le réseau européen est interconnecté, et là, on a un bateau qui passe sous une ligne allemande, encore une fois. Pendant ce temps-là, les Néerlandais sont en train de faire de la maintenance sur la ligne qui assurait la redondance du réseau, donc la ligne de secours. Ils ne s'étaient pas nécessairement prévenus entre eux. Résultat, le réseau tombe, et dans une demi-douzaine de pays, on a 10 millions de consommateurs qui sont dans le noir pendant quelques heures. Il a fallu qu'on coupe les lignes avec le Maroc pour être sûr de ne pas mettre le bazar dans le réseau électrique au sud de la Méditerranée. Donc tout le monde s'est un peu rendu compte que ça posait problème. Chacun des pays a essayé de redémarrer son réseau dans son coin, et ça a pris autant de temps parce qu'en fait, il a fallu du temps pour qu'ils se mettent tous autour de la table en disant « Ok, on va redémarrer ensemble ». Alors évidemment, depuis, il y a eu des avancées qui ont été faites, on a des infrastructures de coopération.
Parce qu'il ne fallait pas qu'il y en ait un qui redémarre avant les autres et que du coup, ce soit perdu dans la masse, quoi.
C'était un peu ça l'idée. Et ils ont mis du temps avant de comprendre qu'en fait, c'était un problème qui n'était pas juste un problème à leur échelle nationale et qu'il fallait regarder plus large.
Alors, oui, parce qu'il n'y a pas d'organisme de gestion internationale du power grid, de la grille électrique européenne. La grille électrique est complètement européenne, mais il n'y a pas d'institution qui gère la grille, quoi.
Il n'y a pas d'institution européenne qui gère la grille de façon opérationnelle. Alors maintenant, on a des gens qui regardent la grille et qui peuvent éventuellement appeler la France en disant « Attention, il va y avoir un petit problème en Italie, ça risque d'arriver chez vous, etc. » Mais ils n'ont pas la main sur le bouton. Les gens qui ont la main sur le bouton, ils travaillent à échelle nationale. Alors évidemment, ils se parlent entre eux, mais on n'a pas d'opérateur européen qui gère l'intégralité du système.
Et alors, comment est-ce que... Évidemment, c'est le serpent de mer, enfin, c'est la difficulté du moment et de l'avenir, mais comment est-ce que la transition énergétique et l'objectif de décarboner cette production d'énergie vient se... Enfin, c'est-à-dire, toi, que l'Allemagne sort du nucléaire, mais du coup, que la production de CO2 forcément augmente pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils soient capables de trouver des alternatives, on voit bien qu'il peut y avoir un accord global sur le fait qu'il faut décarboner, mais que la phase de transition, elle est particulièrement compliquée pour des pays interdépendants.
Ouais. Cette transition... Elle se branche en fait sur la volonté d'intégration européenne. Alors, il y a des choses pour lesquelles ça marche très bien, c'est-à-dire effectivement, ça permet de rationaliser un peu la production. Donc on a des projets comme les autoroutes de l'électricité qui disent « Ok, on va faire du solaire au sud de l'Europe, de l'éolien au nord et le long des côtes, de la biomasse au centre, et puis tout le monde va un peu échanger tout ça parce qu'il y a des problématiques saisonnières, le solaire c'est plutôt en été, l'éolien c'est plutôt en hiver, et ça va permettre de faire des échanges et d'équilibrer certains types de production. »
C'est la beauté d'avoir un continent, c'est qu'on a des climats différents et des milieux différents.
C'est ça, et puis avec un réseau intégré, ça s'équilibre et ça permet des solidarités. Donc chacun chez soi n'a pas besoin de construire en fait toute son infrastructure et tout son backup, on peut compter sur les voisins. Donc ça, c'est la beauté de l'intégration. Après, si on regarde ces aspects plus vulnérables, quand on branche la transition dessus, ça fait de l'électricité qui est intermittente et donc qui nécessite finalement un réseau plus robuste, parce que c'est un peu comme des tuyaux d'eau. Si une centrale nucléaire, c'est toujours le même débit en permanence. Des énergies renouvelables, et ben en fait, vous balancez soit une grosse pression, soit il y en a finalement assez peu. Et donc il faut que les tuyaux soient plus solides, si je peux me permettre la comparaison. Donc il faut gérer ça, l'intermittence de l'énergie renouvelable. Et puis, il faut gérer aussi la digitalisation du réseau, parce qu'en fait, pour gérer le renouvelable et l'interconnexion à grande échelle, eh bien, les opérateurs sont en train de passer à des technologies plus digitales qui font remonter en temps réel de l'information sur le réseau et qui parfois permettent de l'actionner à distance. Et là, on ouvre la boîte de Pandore.
Ouais, c'est-à-dire qu'on n'a plus des vannes, on n'a plus des coupes-circuits un peu partout, on a un ordinateur central, quoi.
C'est à peu près ça. Alors on garde des coupes-circuits manuels, mais on a quand même un ordinateur central qui du coup, ou décentralisé, mais des ordinateurs qui du coup sont vulnérables aux cyberattaques. Et là, l'Union européenne commence à mettre en place des structures depuis un certain temps, mais surtout se rend compte que dans le panel des infrastructures qui sont ciblées par les cyberattaques, l'énergie arrive assez vite en haut de la liste avec les télécommunications. Et là, on ouvre une autre boîte de Pandore de stratégie à échelle internationale. Les Américains se sont récemment plaints que les Russes étaient rentrés dans leur système. L'Ukraine a eu à faire face à la première cyberattaque dans un contexte de conflit recensé qu'elle a attribué à la Russie, où on a quand même à peu près 200 000 consommateurs qui se sont retrouvés dans le noir dû à une cyberattaque qui a bloqué le réseau électrique ukrainien. Et donc, en fait, la transition... En amenant à la fois de l'interconnexion pour générer des équilibrages, de l'attention sur le réseau avec les énergies renouvelables et en plus ces questions de digitalisation, elle ouvre à la fois des forces, mais aussi un certain nombre de vulnérabilités qui demandent, là encore, de la coopération technique et puis aussi politique.
Ouais, bah parlons-en de ces vulnérabilités. Alors juste avant... Parce que pour pas qu'on l'oublie, mais parce que vous y avez fait référence un peu tout à l'heure, il y a des matériaux qui sont importants pour ce renouvelable et qui sont les terres rares, enfin ce qu'on appelle les terres rares, dont du coup l'approvisionnement est une source de vulnérabilité, enfin un enjeu stratégique. Et je crois, en vous le disant, j'ai vu que c'est des ressources qui sont... On viendra ensuite sur tout ce qu'il y a de technique et de sabotage, etc. Mais ne serait-ce que l'accès à ces matériaux qui permettent de faire du renouvelable dont tout le monde s'accorde pour dire que c'est l'avenir de l'énergie, en vous lisant, j'ai vu que c'était essentiellement contrôlé par la Chine. Donc ça pose en soi aussi un énorme problème de vulnérabilité sur la capacité à continuer à faire des équipements efficaces et des équipements d'avenir.
Oui, c'est ce qu'on disait au début, en fait. Il n'y a pas d'énergie qui permette d'être complètement autonome à l'heure actuelle dans un monde globalisé, qui permette d'être complètement autonome. Et toutes les énergies viennent à la fois avec des risques, avec des impacts environnementaux et avec des dépendances. Alors, selon les énergies, ça change. Pour les énergies renouvelables, effectivement, la grande problématique, c'est la question des matériaux. Alors, les terres rares en sont un exemple qui intéresse particulièrement les militaires parce que c'est utilisé dans les systèmes d'armes. Donc, on regarde, en fait, où sont les réseaux d'approvisionnement et comment c'est structuré. Mais à la fois le lithium pour les batteries, le cobalt pour d'autres productions renouvelables, en fait, on a des interdépendances qui sont assez fortes. Alors les terres rares, elles ont fait particulièrement parler d'elles parce que elles sont à 90% à peu près sur quasiment l'ensemble de la chaîne de production, donc extraction, raffinage, alliage, production de composants, brevets, aux mains de la Chine. Et il y a eu un changement dans les années 90 où, en fait, la production est passée des États-Unis vers la Chine. Et en 2010, si ma mémoire est bonne, suite à un petit incident naval entre la Chine et le Japon, la Chine a décidé de cesser un peu ses exportations de terres rares. Et donc, on s'est retrouvé avec des différentiels de prix très forts entre le marché intérieur chinois et le marché extérieur. Et donc là, la communauté internationale a réagi. Et la Chine a d'ailleurs été condamnée par l'OMC en se disant « Ah, tout est passé aux mains des Chinois. » Et la question qui se pose, c'est « Alors, est-ce qu'on a les ressources ?» Il y a des ressources alternatives dans le monde, mais est-ce qu'on a la capacité technique, les brevets, le savoir-faire pour reconstituer un outil industriel de production si besoin ? Et bien là, la question est plus compliquée, parce qu'en fait, on perd en savoir-faire sur ces questions-là. Donc, il y a un intérêt à la fois pour les terres rares, mais aussi pour d'autres types de matériaux qui montent, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a de nouvelles dépendances qui apparaissent.
Et enfin, revenons sur ce que vous disiez il y a 5 minutes, c'est-à-dire sur ce qu'on peut appeler la vulnérabilité, vraiment au sens strict, quoi, des infrastructures énergétiques. C'est-à-dire, donc au-delà des problématiques géopolitiques d'approvisionnement dont on vient de parler beaucoup, c'est-à-dire comment on assure et on solidifie les réseaux dans les perspectives. Alors c'est ce qu'on appelle les guerres hybrides, vous y avez fait référence dans le cas de l'Ukraine, c'est-à-dire c'est l'idée qu'il pourrait y avoir des attaques mixtes, que si on attaque un pays, autant couper l'énergie en même temps, parce que ça va affaiblir toute la structure, ça va affaiblir toute la résilience nationale. Et donc les blackouts et les atteintes au réseau électrique peuvent faire partie des éventails tactiques et stratégiques. Donc, alors c'est pas nouveau, hein, ça fait très longtemps déjà, c'était une des actions standards de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, de saboter les réseaux électriques. Mais aujourd'hui, donc, comment se pose le problème ? Peut-être d'abord parce qu'on parle beaucoup des cyberopérations, mais juste physiquement, les centrales, c'est sûr, enfin c'est défendu, c'est gardé une centrale électrique ?
Alors, les centrales, oui, ça fait partie des infrastructures critiques, c'est dans les plans de protection, etc. Là où ça devient plus compliqué, c'est lorsqu'on parle du réseau. Parce que le réseau, quand il n'est pas enterré, vous vous baladez en France en voiture, on les voit en fait. Les pylônes, les centrales, ce qu'on appelle les postes de transformation qu'on voit en fait parfois dans les champs, où là pour le coup on a des clôtures anti-vaches et puis des caméras de sécurité, mais qui sont surtout là pour empêcher le vol de cuivre. Elles ont été conçues pour ça en fait, empêcher qu'on rentre dans le poste de transformation pour piquer du cuivre. Les premiers à s'être
vraiment... Ça n'a pas forcément un commando, quoi.
Voilà. Alors, pas du tout même. Les premiers à s'être intéressés ce sont les Américains qui ont eu une attaque il y a 10 ans à peu près sur le poste de transformation de la Silicon Valley, Metcalf, où là, un tireur isolé, alors ils étaient peut-être un, peut-être deux, on ne sait pas trop, parce que les caméras elles sont tournées vers l'intérieur pour le vol de cuivre, mais pas vers l'extérieur, a tiré à la AK-47 pendant une vingtaine de minutes sur le transformateur, et il a mis le poste hors d'état de fonctionner. Et comme c'était des équipements un peu spéciaux, il leur a fallu...
Juste à coup de mitrailleuse légère ?
À coup de mitrailleuse légère, oui.
Ok. Enfin, surtout aux États-Unis, c'est pas le truc le plus dur à trouver, quoi.
Non. C'est relativement simple.
Enfin, je veux dire, c'est pas une attaque hyper sophistiquée, quoi. Si n'importe quel type avec un fusil d'assaut peut mettre hors service un équipement aussi stratégique, c'est...
Alors, c'est jamais complètement stratégique au sens où c'est un poste de transformation, et à part dans des réseaux extrêmement vétustes ou mal entretenus, il n'y a jamais un poste de transformation qui permet de faire sauter l'ensemble du réseau. C'est conçu pour ça. Mais en l'occurrence, ils ont mis une quarantaine de jours à réparer le poste de transformation, et c'est celui de la Silicon Valley. Donc si on met la Silicon Valley dans le noir, ça pose quand même un problème économique et d'activité aux États-Unis. Et donc ça les a fait beaucoup réagir, et ils se sont lancés dans des grandes réflexions sur ces questions-là, d'autant plus qu'ils se sont rendus compte à l'époque qu'aucune des agences de protection nationale n'était en fait responsable devant l'État de la protection du réseau. Donc ils ont remédié à ça, et ils ont fait notamment ce qu'ils appellent les GRIDEX, qui sont des Grid Exercises, donc des exercices sur le réseau, où ils convient en général les Mexicains et les Canadiens pour réfléchir à des attaques hybrides, à la fois physiques et cyber, sur leur réseau d'électricité. Alors les Européens ont emboîté le pas aussi, c'est mené à l'échelle européenne, donc il y a des simulations, il y a des tests, mais ça fait partie, disons, du paysage de réflexion stratégique, la protection des infrastructures électriques, à tel point que les États-Unis ont annoncé, via différents canaux, il y a quelques mois, quelques années, ça dépend du cas, qu'ils envisageaient de revenir, dans certains cas, à des infrastructures manuelles, pour protéger leurs bases militaires ou à les isoler du système de façon à ce qu'en cas de coupure majeure, en fait, elles soient capables d'une certaine forme de résilience. Alors, quand ils pensent ça, ils ne pensent pas nécessairement uniquement à des questions de cyberattaque ou d'attaque physique, ils pensent aussi à des événements environnementaux extrêmes, des incendies, etc., qui permettraient en fait aux bases militaires d'avoir une résilience vis-à-vis du réseau. Et évidemment, en Europe, bon, la question se pose aussi pour un certain nombre d'infrastructures.
Bon, et enfin, pour terminer, puisqu'on en parle un peu en filigrane aussi depuis tout à l'heure, mais le risque informatique est évidemment majeur, puisque les grilles, enfin, vous l'avez décrit, se numérisent à toute vitesse, c'est ce qu'on appelle... de plus en plus les smart grids, enfin, c'est-à-dire les réseaux intelligents qui sont connectés avec des villes intelligentes, enfin, bon, des réseaux d'approvisionnement qui sont toujours plus numériques, qui sont toujours plus optimisés par ordinateur. Donc disons, quelles sont les mesures, s'il y en a, enfin, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'on investit sur la sécurité informatique des réseaux électriques par rapport à d'autres secteurs, je sais pas, enfin, dans quelle mesure est-ce que c'est devenu une priorité à travers le monde dans ces dernières années?
Alors, c'est une priorité d'investissement et l'Union européenne travaille là-dessus. Le grand problème qu'on a, c'est que, en fait, il y en a partout. Et c'est pas un élément régalien. Et donc, très souvent, ce sont des acteurs locaux qui gèrent ce genre de choses. Et donc, quand vous êtes maire d'une ville, ou préfet d'une région, votre cœur de métier, c'est pas nécessairement la cyberdéfense du réseau électrique. Donc, alors, quand on parle de l'appareil, disons de l'appareil régalien, on est sur des problématiques un peu différentes, mais disons, la cyberprotection des infrastructures électriques n'est pas nécessairement le cœur de métier des acteurs qui s'en occupent. Donc, c'est peut-être ça, finalement, le point le plus compliqué à gérer, c'est qu'on a une multitude d'acteurs. Souvent, ils ont des contrats un peu différents, ça va être des sociétés différentes, ça va être des standards différents. Et donc la question de la construction d'un standard européen se pose à l'heure actuelle de façon assez précise, parce que la question du standard, en fait, elle est sur la table aujourd'hui.
Très bien, bah, merci beaucoup, Angélique Pal.
Merci.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle comme toujours que vous pouvez nous joindre par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, et que comme d'habitude, notes et commentaires nous sont utiles et précieux, notamment sur iTunes, tant parce qu'ils donnent de la visibilité au podcast que parce qu'ils nous permettent d'avoir un échange et un retour sur ce qu'on fait. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.